Radion, le top de la pop. Radion. Radion. La matinale sur Radion.
Tout juste 11h08 sur Radion. Et aujourd'hui, dans la matinale, on va parler de miel avec Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, je m'appelle Marie Dautin et je suis la gérante du domaine des acacias qui se trouve à Chablis. Nous sommes apiculteurs et viticulteurs.
Ça veut dire quoi, apiculteur ?
Apiculteurs, nous sommes producteurs de miel. Mmh. Nous avons toute notre production de ruches. Nous faisons notre miel et tout ce qui est transformation apicole, c'est-à-dire tout ce qui est pain d'épices, nougat, bonbons.
Voilà, j'allais dire, vous ne vendez pas que du miel.
C'est ça.
Tout ce qui a trait au miel, pâtisserie.
Oui.
Au niveau des ruches, combien de ruches contenez-vous ?
Pour l'instant, on en a un peu plus de 150.
Et... 150 ruches, voilà. Quand même. Mais ils sont où à Chablis, les ruches ?
Ils sont cachés dans les bois.
Ah, parce que c'est obligatoire de les mettre dans les bois par rapport au soleil ?
Oui, par rapport aux expositions solaires et également par rapport aux habitations.
150 ruches, en ce moment, quelle est la partie de traitement des ruches ?
Là, actuellement, on est en train d'extraire le miel d'acacia. Mmh. Et les ruches sont parties pour le miel de châtaignier.
D'accord, c'est-à-dire donc il y a plusieurs périodes, ils reviennent avec un miel différent.
Oui, on fait des récoltes en fonction des floraisons pour avoir des miels de cru à chaque récolte.
Alors là c'est l'acacia, la récolte elle est bonne ?
Plutôt bien.
Plutôt bien. Il y a des années où malheureusement vous avez de mauvaises récoltes ?
Oui, tout dépend de la météo, tout dépend de la floraison, de la météo, du gel, de la pluie.
Et donc cette année c'est une bonne année ?
Pour l'instant, oui, tout va bien.
On part sur une petite pause musicale.
La matinale sur Radion.
Tout juste 11h15 sur Radion. J'ai une clarté dans les studios, c'est Marie. Rebonjour Marie.
Rebonjour.
Alors Marie, on parle de miel. Le domaine des acacias, donc, qui est situé à Chablis, propose différents produits issus du miel. Alors il y a le pain d'épices, mais pas que.
On a le pain d'épices, on a 5 variétés de pain d'épices. Du pain d'épices nature, aux abricots, aux agrumes, au chocolat ou aux figues. On a du nougat, de la guimauve miel framboise, miel violette, des bonbons et également des petits bonhommes en pain d'épices qu'on fait périodiquement.
Le domaine des acacias, on sait qu'à Chablis, tout ce qui est des domaines, c'est viticole. Et c'est...
Oui.
Et vous êtes également un domaine viticole ?
On est également viticulteur. C'est pour ça que ça se nomme le domaine des acacias pour lier les deux activités.
Ça fait beaucoup de travail. Combien vous êtes dans l'équipe ?
On est deux. On est mon conjoint et moi-même.
Pour tout faire ?
Oui.
C'est pas possible. C'est pas possible, si ?
Si, si.
Quand même, le miel, le vin, mais c'est un travail énorme.
Oui.
Combien d'hectares vous avez au niveau viticole ?
Pour l'instant, on n'a qu'un hectare et demi en production. Mmh.
Sur quels critères le...
Sur principalement la région de Tonnerre. Mmh. On a un petit peu de vignes sur Courgy en appellation Chablis. Et on a un petit peu de vignes sur Molhomme en Crémant.
D'accord, même du Crémant.
Oui.
Ce domaine des acacias à Chablis, on peut faire un historique ? C'est un domaine que vous avez repris ou qui est,
non.
C'est une succession ?
C'est une création.
C'est une création.
Une création de domaine qu'on a fait avec mon compagnon. Mmh. À l'origine, on est parti que sur l'apiculture. Parce qu'en fait, on a repris une partie du cheptel de mon père qui est lui-même
d'accord.
Apiculteur. On s'est installé en apicole et on a eu l'occasion, grâce à Monsieur Trotti, à Tonnerre, qui nous a permis de nous installer en viticole en nous cédant des parcelles. Et c'est comme ça qu'on a réussi à s'installer en viticulture. Et de là, on a créé le domaine en rejoignant les deux activités.
Pourquoi avoir créé un domaine d'apiculture ? Vous avez suivi des études ? Comment ça s'est passé ?
Moi, à l'origine, je suis claire de notaire.
Ah, ça n'a rien à voir.
Rien à voir. Je suis claire de notaire spécialisée en droit rural. Mmh. Et j'ai repris une partie des ruches de mon père avec mon conjoint. Mmh. Parce que j'ai toujours été dans la picole et c'est un métier qui nous plaisait. Et mon conjoint, lui, de son côté, étant du chablisien, avait déjà de grandes bases, de grandes notions au niveau viticole. qui nous a permis aussi de nous installer complètement et avoir toutes les notions pour maîtriser.
On l'a dit, un nombre spécifique de ruches au sein du Chablisien.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu une extension depuis la reprise ?
Non, on s'est agrandi au fur et à mesure. Tous les ans, on a agrandi le cheptel.
Vous avez commencé avec combien de ruches ?
On a commencé avec une cinquantaine de ruches. Mmh. Là, on est à 150 et l'objectif est d'être à 300 d'ici un an et demi, deux ans.
Mais ça fait un sacré espace quand même. Mais comment vous arrivez, vous, à vous deux, à gérer 300 ruches, quoi ? C'est quand même énorme.
C'est énorme.
Vous y passez toute la journée, même la nuit. C'est incroyable. Alors, quel est le déroulement de la récupération du miel ? On ne dit pas une cueillette, comment ça s'appelle ?
Une récolte.
Une récolte. Alors, quel est le processus de la récolte du miel ? Est-ce qu'il faut avoir un équipement spécifique ?
Oui, on a un équipement, on a des remorques, on a du matériel spécifique pour les ruches. On récolte nos housses de miel, c'est où se trouvent les cadres de miel.
D'accord.
Et après, elles sont placées en chambre chaude pour être déshumidifiées, puis
d'accord,
extraites. On a une chaîne d'extraction qui est située à Chablis, avec tout l'équipement nécessaire, où on extrait notre miel.
Donc on l'a dit, vous êtes sur le miel d'acacia.
Actuellement, là, aujourd'hui, c'est l'extraction du miel d'acacia.
Et c'est également sur toutes les ruches, le miel d'acacia, ou c'est spécifique sur certains secteurs ?
Ça dépend des secteurs. Là, le miel d'acacia, principalement, qu'on a produit est du côté de Charbuis.
Mmh.
Ce qu'on fait de la transhumance, on déplace nos ruches en fonction des floraisons.
Ah, d'accord.
Et là, le miel de châtaignier, elles sont placées du côté de Parly, du côté de Toussy, pour être dans les forêts de châtaignier.
Dans les forêts de châtaignier.
C'est ça.
On repart en musique et on se retrouve dans un petit moment sur Radion.
La matinale sur Radion.
On fait 27 minutes sur Radion et toujours Marie avec moi pour parler de miel. Et j'ai Kevin aussi avec moi. Bonjour Kevin.
Bonjour, bonjour à toi.
Kevin, on parle de miel. Connais-tu, toi, vraiment le miel ?
Non, je connais pas vraiment le miel.
Alors tu aurais peut-être des questions à poser à Marie ?
Oui, bien sûr. Déjà, quel type de miel je peux retrouver chez vous ?
Les différents miels que nous produisons, alors nous avons le miel de printemps, qui est un miel qui est plutôt crémeux. Nous avons le miel d'acacia, le miel de châtaignier, le miel de forêt, et suivant les années, du miel de ronce.
Du miel de ronce, ça a le goût de la mûre après ?
Non, pas du tout.
Mais au niveau du goût, est-ce qu'on retrouve les goûts des origines du miel ?
Pas forcément. Sur le miel d'acacia, on ressent beaucoup la fleur d'acacia. Mais ouais, sur les autres miels, ça ne se rapproche pas réellement du fruit, de l'origine du miel. Le miel de châtaignier ne va pas sentir la châtaigne forcément. Le miel de printemps, c'est à l'origine du miel de colza, fruitier ou pépine. Donc on a un mélange de fleurs. On a du miel de toutes fleurs également que l'on commercialise. Mais c'est vrai qu'on est un peu distinct de... Le miel de ronce, par exemple, ne va pas sentir la mûre également.
Ah d'accord, dommage. Au niveau de ces miels, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que les autres ?
C'est en fonction du goût du consommateur. Ça, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Et c'est en fonction des préférences de chacun. S'ils veulent un miel doux, un miel fort, un miel liquide, un miel crémeux, c'est en fonction vraiment des goûts de chaque consommateur.
On voit souvent des pots qui sont complètement cristallisés, qui sont blancs, et d'autres qui sont marrons, qui sont encore liquides.
Oui.
Pourquoi ?
Alors ça, tout ce qui est cristallisation, dans tous les cas, c'est le cycle naturel du miel.
Mmh.
Mais on a des miels qui ont tendance à cristalliser plus ou moins vite en fonction du nectar. Tout ce qui va être miel de colza, miel de tournesol, on va être sur des nectars qui vont avoir tendance à cristalliser très vite, donc à durcir rapidement. Et par contre, on a d'autres miels comme le miel de châtaignier, de forêt ou d'acacia qui vont rester liquides beaucoup plus longtemps.
D'accord.
Après, tout ce qui est au niveau de teinte, ça vient aussi de la couleur du pollen, qui est plus ou moins teinté à l'origine de la fleur. Ce qui fait que ça donne une typicité en goût et également en couleur d'un miel.
Combien de temps faut-il pour du moment où la première abeille arrive dans la ruche jusqu'au moment de la récolte sur une seule ruche ?
Les abeilles, elles se renouvellent tout au long de l'année parce qu'elles ont un cycle de vie qui est très court. Mais après, entre chaque récolte, on a à peu près 3 semaines de délai en fonction des floraisons.
3 semaines. C'est-à-dire vous videz la rue au bout de 3 semaines et vous...
Non, la colonie reste en place, mais en fait c'est les hausses avec les cadres que l'on met au-dessus de la ruche.
D'accord.
Que l'on change. Donc on fait la récolte de miel une fois que c'est plein, on en remet des vides pour qu'on puisse remplir avec la prochaine floraison.
Ils travaillent bien les abeilles en ce moment, ça va?
Pour l'instant, elles travaillent bien. Elles sont courageuses.
Au niveau de ces miels, on sait que malheureusement, quelquefois, on a des miels qui ne sont pas réellement du miel ou il y a un mélange avec d'autres produits. Comment on reconnaît un bon miel?
Après, pour avoir un bon miel, pour être certain, le mieux, c'est d'aller en direct du producteur. Vous savez l'origine, vous savez le travail qu'il fait, vous savez qu'il a des ruches. Mmh. Et vous êtes sûr au moins de l'origine et puis de la localité.
Ça, c'est une bonne. Kevin, tu as une question?
Kylian, quels sont les bienfaits du miel pour la santé?
Chaque miel a ses vertus différentes. En règle générale, dans tous les cas, le miel est très bon pour la santé et meilleur que du sucre pour tout ce qui est gâteau, pour tout ce qui est thé, café. Mais après, chaque miel a des vertus différentes. Le miel de toute fleur aura plus des vertus cicatrisantes. Le miel de châtaignier aura plus des vertus, par exemple, pour la circulation du sang. Mmh. Et il y a certains miels de printemps qui auront des vertus plus tout ce qui est grand pour les grands brûlés. Il y a certains hôpitaux qui s'en servent également.
Ah, pour pouvoir soigner et cicatriser les brûlures. Le miel de printemps, c'est quoi? C'est de quelle fleur?
Miel de printemps, là, c'est principalement du colza. Après, on peut avoir un petit peu de mélange de fruitiers, d'aubépines. Mais c'est principalement du colza. Après, ça dépend en fonction de la récolte. On peut mettre tout ce qui est tilleul, fruitier dans un miel de toute fleur.
On part, nous, sur une pause musicale et on revient juste après pour retrouver Marie. Et je vous le rappelle, on parle du miel ce matin dans la matinale.
Electro, pop, Radion. La matinale sur Radion.
Tout juste 11h39 sur Radion, toujours avec Marie. On parle du miel et en particulier du domaine des acacias qui est situé sur la commune de Chablis. Marie, à quel moment le miel est récolté en général? Est-ce que c'est à chaque fois que la ruche est pleine ou vous avez des moments spécifiques pour la récolte du miel?
Non, les récoltes sont vraiment réalisées en fonction des dates de floraison.
D'accord.
Donc dès qu'on a une floraison qui débute, on met les hausses. Dès qu'on est en fin de floraison et qu'on a une autre floraison qui arrive, on se dépêche de récolter, de remettre des hausses vides pour éviter de mélanger les fleurs dans le miel.
Vous videz pas complètement la ruche?
Non, la colonie reste en place toute l'année.
Il y a X ruches au même endroit. Est-ce que les abeilles d'une ruche peuvent pas aller dans l'autre et puis à la rigueur...
Non. Le fonctionnement des ruches est très bien organisé chez les abeilles parce qu'en fait, elles se reconnaissent par rapport aux phéromones.
D'accord.
Donc une abeille appartient à une ruche. Ils ont toutes les mêmes phéromones par rapport à la reine. Et en fait, elles se reconnaissent à l'odeur, entre guillemets.
D'accord.
Et même si on a plusieurs ruches d'alignées, il y a très peu de chances qu'elle se trompe parce qu'elle rentrera toujours
au même endroit
dans sa ruche. Elle se repère aussi à la couleur de sa ruche, à la couleur des hausses, à son emplacement et également au phéromone parce qu'elle est rattachée à sa reine.
On le sait, maintenant il y a des parasites au niveau des abeilles. Est-ce que vous en subissez les conséquences?
Oui, on est surtout on est surtout atteint par le varroa. Mais après, il y a des traitements qui existent.
Alors, le varroa, c'est quoi ça?
Le varroa, c'est une sorte de poux qui se fixe sur l'abeille et en fait qui endommage les larves et qui font que les abeilles naissent atrophiées.
D'accord.
Il leur manque une aile, il leur manque une antenne ou autre. Et il y a des traitements qui sont mis en place et il y a les syndicats apicoles qui font de plus en plus de prévention par rapport à ça pour que même les petits apiculteurs traitent aussi à leur niveau pour éviter la propagation des maladies.
Par rapport à la météo, par rapport à ce qui se passe au niveau environnement, est-ce que l'abeille est menacée?
Actuellement, il y a eu beaucoup d'évolution par rapport à ça parce que les agriculteurs ont pris conscience de l'importance des abeilles et il y a beaucoup plus d'organisation. Et nous, par exemple, quand on fait de la transhumance sur des miels de colza ou autre, les agriculteurs nous préviennent s'ils vont traiter, etc. Comme ça, on peut fermer la ruche la veille.
D'accord.
Et ça évite que les abeilles meurent par les traitements. Il y a beaucoup plus de raisonnements qui sont faits, de communication entre les apiculteurs et les agriculteurs. Et également les agriculteurs, ils traitent de plus en plus, soit tôt le matin, soit tard le soir.
Le soir.
Pour éviter qu'ils traitent en plein moment, en pleine journée, quand les abeilles sont sur les fleurs.
À quel moment ils rentrent les abeilles? À quel moment ils repartent?
C'est par rapport à la température, par rapport à la fraîcheur. Quand on arrive vers le soir, elles rentrent. Et le matin, s'il ne fait pas trop chaud, elles sont aussi dans les ruches. C'est en fonction de la température et de l'ensoleillement.
C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il faut qu'il fasse chaud pour qu'elles puissent
aller travailler? Oui, il faut une certaine température. Parce que sinon, en fait, il faut qu'elles gardent le corps de la ruche à 39 degrés pour...
D'accord.
Pour les larves, pour l'élevage.
Pour l'élevage. Au niveau d'une ruche, on a parlé d'élevage, donc fabrication du miel. Mais ces ruches au niveau communauté, est-ce qu'ils se renouvellent automatiquement dans la ruche?
Nous, on a un système de production où en fait on change nos rennes toutes les deux ans. Ce sont des rennes qui sont sélectionnées par des éleveurs. On travaille avec une race pure qui s'appelle la Buckfast. Et toutes les deux ans, on renouvelle nos rennes pour optimiser la production, la fécondation. Et avoir des ruches toujours, des colonies toujours dynamiques.
Ah, parce qu'il y a des rennes spécifiques par
rapport aux... Il y a des races, comme chez les chiens et les chats.
Ah, ça va. Et au niveau du nombre d'abeilles, est-ce qu'il y a un nombre spécifique dans chaque ruche?
Non, il n'y a pas de nombre spécifique. Ça dépend en fonction de la densité de la colonie, si elle est plus ou moins forte, ça dépend de l'âge de la reine, ça dépend aussi de la saison, ça dépend de la période de l'année, parce qu'en hiver, il y a beaucoup moins de monde. Et pendant les périodes de récolte, il y a plus de ponte, parce qu'il faut beaucoup plus d'ouvrières pour les récoltes. Ça dépend vraiment en fonction de l'année, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu.
Et l'hiver, ils hibernent?
L'hiver, elles hibernent.
Dans la ruche?
Oui, elles se mettent en grappe afin de chauffer la colonie. Mais il y a beaucoup moins de monde. C'est surtout pour nourrir la reine.
Allez, on part sur un petit point musical et on revient après.
Les meilleures nouveautés pop sont sur Radion. La matinale sur Radion.
11h50, toujours avec Marie, on parle de miel. Alors Marie, on parlait des parasites, on peut parler aussi du frelon asiatique, c'est un ennemi des ruches.
Oui, effectivement, le frelon asiatique s'est bien répandu ces dernières années. Il est assez difficile à combattre. Parce qu'en fait, le souci, c'est que les nids se perchent très très haut dans les arbres.
Oui.
Et ils sont cachés dans le feuillage. Et en fait, au moment où on découvre le nid, le feuillage est tombé. Mais le nid est vide. Donc le meilleur moyen, ce serait de sensibiliser la population à faire de plus en plus de pièges pour les frelons asiatiques à mettre dans leur jardin pour pouvoir capturer les rennes et limiter la propagation des nids.
Comment on fait un piège
Alors, on met du cassis ou de la grenadine, on met du vin blanc.
D'accord.
Et puis on peut mettre un petit peu de bière aussi dedans.
Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui les attire? C'est le sucre, non?
Le sucre, c'est tout un mélange qui est assez prolifique pour les frelons.
Rappelons, la formule, donc, c'est de la grenadine,
du vin blanc.
Du vin blanc et...
un petit peu de bière.
Et un petit peu de bière. On met ça dans le jardin?
Dans une bouteille où on coupe l'eau.
Ah, dans une bouteille?
Une bouteille en plastique, on coupe l'eau, on le retourne. On accroche avec une ficelle dans une branche et on le met dans les jardins.
Donc ils viennent et ils se noient dans le...
Voilà, et ils peuvent plus ressortir, mais par contre il n'y a que les frelons qui rentrent dans, les abeilles n'iront pas.
Ah d'accord, et les frelons après on peut en faire des petites brochettes hein.
Sortez ce que vous voulez.
Ça c'est les frelons asiatiques, est-ce qu'il y a d'autres prédateurs au niveau des abeilles?
Non, on en a quand même assez peu au niveau des abeilles. On a le frelon européen, mais... Il n'est pas si méchant que ça pour les abeilles. C'est surtout le frelon asiatique parce qu'en fait, il se nourrit des abeilles.
Il se nourrit des abeilles.
Voilà, ils se mettent en stagnation devant la ruche et ils attrapent les abeilles, ils les coupent en deux et ils emmènent l'abdomen parce qu'en fait, ils nourrissent les larves avec la partie musculaire de l'abeille.
D'accord. Vous avez vu ça où, au microscope, non?
Ah non, vous restez devant la ruche, vous allez vite le voir.
Non. On est dans ces frelons asiatiques et il n'y a pas de parade devant la ruche. On ne peut pas mettre des filtres, je sais pas, des filets ou autre.
Oui, on peut mettre des filets ou autre, mais c'est vrai que pour une question de praticité, c'est assez compliqué à maîtriser.
À mettre en valeur, surtout s'il y a 300 ruches.
Exactement.
Et vous avez déjà eu des cas comme ça de...
Oui, on a déjà eu des cas.
Et là, qu'est-ce que vous faites?
On déplaçait les ruches en urgence avant qu'elles se fassent tuer.
Ah, parce qu'ils peuvent complètement...
Ah oui, ils déciment complètement les ruches.
Ah, quand même. Alors, ils sont un seul frelon ou il y en a plusieurs?
Oh, bah, ils se passent le mot en revenant au nid. Et puis, ils viennent à un, à deux, à trois. Et puis, à force, ils rentrent au fur et à mesure dans la ruche parce que les abeilles n'osent plus sortir.
Mesdames et messieurs les auditeurs, si vous voulez manger, déguster du miel l'année prochaine, n'hésitez pas à faire un piège dans votre jardin. Ça rendra service aux apiculteurs. Au niveau du miel... Par rapport aux produits dérivés, on a parlé du pain d'épices.
Oui.
Et puis...
On a également le nougat, les guimauves.
Le nougat, oui.
Les guimauves. Et puis...
Là, c'est pareil, c'est fait avec les différents miels.
Oui, c'est fait avec notre miel. On a un laboratoire et tout est réalisé par moi-même, toutes les pâtisseries.
Alors, on a dit, on a le miel, le nougat...
Le pain d'épices. Les guimauves au miel. Et puis là, on est en train de mettre en place les bonbons.
Des bonbons au miel. Ça, voilà. C'est bien pour la gorge en hiver.
C'est ça. Et puis à Noël, on fait des petits bonhommes en pain d'épices.
D'accord.
Ils sont très appréciés par les enfants.
Comment vous arrivez, vous, sincèrement, à produire et à vous en sortir, vous, au niveau financièrement, par rapport à la concurrence qu'il peut y avoir autour, que ce soit européenne ou autre?
Après, nous, on essaye au maximum de mettre en valeur notre production. On a également une page sur Facebook qui s'appelle Le Domaine des Acacias, où avec mon compagnon, on essaye de mettre au maximum de photos de notre production, qu'on est dans les ruches, qu'on est dans le labo, qu'on est dans les vignes, pour montrer aux gens notre façon de travailler et puis la façon qu'on fait notre production. Et après, on valorise également au maximum nos produits sur les marchés, les foires, les portes ouvertes, de la vente à domicile.
Parce qu'en plus, vous allez sur les marchés, non?
Oui, on est présent sur le marché de Chablis tous les dimanches matin.
Vous travaillez 24 heures sur 24, c'est plus possible.
Devant la maison de l'Andouillette. Les gens peuvent également venir directement à la maison sur rendez-vous en chercher. Par contre, il faut juste nous appeler un petit coup.
Bah oui, parce que...
Parce qu'on n'est pas toujours à la maison.
Avec le travail, ouais.
Et puis, sinon, quand il y a des foires gastronomiques, quand il y a des portes ouvertes, quand il y a d'autres marchés, les marchés de Noël, on essaye au maximum d'être présent un peu partout pour pouvoir proposer nos produits à un maximum de personnes et de secteurs.
Souvent, il y a des essaims qui se déplacent.
Oui.
Les gens aperçoivent un essaim. Quels sont les conseils qu'il faut donner à ces personnes?
Le mieux, c'est d'appeler un apiculteur qui est du coin pour venir le récupérer. Après l'essaim, il peut repartir dans la journée.
D'accord.
Ou sinon, rester posé, s'installer. Mais quand c'est comme ça, vous appelez un apiculteur, il viendra le chercher avec plaisir.
C'est qui? C'est une abeille qui décide de s'installer? C'est la reine?
C'est non,
qui...
c'est quand la colonie est un peu trop forte et en fait, elle élève une seconde reine. Et la nouvelle reine part avec une partie de la colonie.
D'accord.
Du coup, ce qui vous forme un naissant.
Donc ça peut s'installer n'importe où, dans une cheminée?
Oui,
dans de...
c'est ça. Souvent c'est dans les arbres, mais après ça peut arriver que ça se retrouve dans une cheminée.
Comment on reconnaît un essaim de guêpe et un essaim d'abeille? Et quelle est la différence?
Ah, les guêpes sont... Bah, déjà, elles sont jaunes.
Oui.
Et les abeilles, elles sont noires, marron. Donc ça n'a rien à voir. Et puis les abeilles, c'est vraiment distinct. Ça vous fait vraiment une grosse grappe d'abeilles. Alors que les guêpes vont former un petit nid, un petit cocon, un peu comme du papier mâché.
Et ça, c'est pour le nid.
Oui.
On part sur une pause musicale et puis on se dira au revoir dans un petit moment.
La matinale sur Radion.
Il fait pratiquement midi sur Radion et toujours avec Marie. On va se dire au revoir. Marie, alors juste à rappeler Facebook pour pouvoir découvrir les produits.
Oui, le Facebook il s'appelle Domaine des Acacias.
Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc tous les produits
Vous y trouvez surtout des photos de notre travail, de notre production. Quand il y a des nouveaux produits, on les met également en photo quand il y a des nouveautés. Vous pouvez aussi nous contacter par message, en message sur Messenger, sur la page du domaine. Et il y a également mon numéro de portable et notre adresse postale pour venir nous trouver.
Est-ce qu'il y a des moments propices pour venir vous rencontrer ?
Le mieux, c'est de nous appeler avant et en fonction de l'organisation de notre journée, on vous donnera un petit créneau pour passer.
C'est vrai qu'à Chablis, c'est une ville touristique.
Oui.
Beaucoup d'étrangers viennent chez vous ?
Oui, on a quand même beaucoup de touristes, mais on les retrouve principalement sur le marché.
Sur le marché. On rappelle que le marché, c'est le dimanche.
Le dimanche matin, et nous, on se trouve en face de la maison de l'Andouillette, en face de la maison Soulier.
Marie, merci d'avoir participé à cette interview.
Eh bien, merci à vous, merci à tous.
On en a appris beaucoup sur le miel, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce Facebook. Je vous rappelle le nom, c'est le domaine des Acacias. Et pourquoi pas vous déplacer directement sur Chablis pour aller rencontrer les produits. Préférez plutôt les producteurs de miel que d'aller les acheter dans les supermarchés. Vous verrez la différence. Dans l'instant, il se fait midi sur Indiana.